Salut, c'est Jérémy pour Scepticisme Scientifique. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode de la semaine passée sur la philosophie morale et l'éthique avec Florian Olivier. Donc si vous n'avez pas entendu cette première partie, allez l'écouter directement et arrêtez cet enregistrement. Voilà pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page du balado.
Voilà pour donc tout ça, c'était toute la discussion, on va dire, sur la toute la présentation sur la métaéthique. Donc je rappelle les points qu'on a vus rapidement. On a jusqu'à présent, on a fait une distinction entre l'éthique et la morale. On a vu les quatre grandes manières dont la philosophie pouvait aborder les questions morales. Et j'ai présenté un peu plus ce que c'était que la métaéthique, en montrant d'une part les questions auxquelles elle essayait de répondre, à savoir qu'est-ce que le bien ou que doit viser l'éthique, les débats qu'on peut avoir sur ces questions-là, quel est le fondement de nos idées morales, est-ce qu'on peut en avoir un, et distinguer des patients et des agents moraux, en montrant qu'il y a une diversité des patients moraux, qu'ils peuvent être plus ou moins hiérarchisés, il peut avoir avec des valeurs directes ou indirectes, et enfin la présence de agents moraux, qui est en général un groupe plus restreint et qui peut être pris de manière plus ou moins réelle en compte. Alors maintenant, j'ai présenté les grandes formalisations qu'a connues la morale à travers la philosophie. C'est-à-dire qu'on peut chacun individuellement avoir des jugements moraux sur ce qu'il se produit, mais il faut savoir qu'historiquement, il y a des courants moraux qui se sont formés avec des systèmes moraux, des systèmes de pensée, des choses plus ou moins systématiques, justement, on va voir, sur ça aussi il y a des débats, et du coup que j'appelle moi des formalisations, des manières de formaliser des raisonnements. Donc il y en a trois. Il y a trois grands courants, et après à l'intérieur de ces trois-là, on peut distinguer des aspects plus petits. Donc ces trois courants, c'est l'utilitarisme, le déontologisme et l'éthique des vertus. Et le premier courant dont on va parler là, rapidement, c'est donc l'utilitarisme. Donc l'utilitarisme, c'est un courant éthique qui a été formalisé la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de raisonnement. De raisonnement de ce type-là antérieur, mais la première fois qu'il a été en quelque sorte formalisé, ça a été par Benjamin Bentham. Et ensuite, il a été repris par d'autres philosophes comme John Stuart Mill. Il y a eu des premières réflexions du type utilitariste antérieur. Alors, l'utilitarisme, en fait, s'inscrit dans une manière de voir plus générale que lui, qui est le conséquentialisme. Le conséquentialisme, ça consiste à prendre en compte les conséquences, mais les conséquences d'une action. C'est-à-dire que quand on va estimer que quelque chose est bon ou mauvais, en fonction des conséquences que va engendrer l'action, en général de manière indépendante de l'agent. Donc par exemple, un des problèmes de l'utilitarisme, c'est que en général, il prend peu en compte les capacités ou la force ou l'intelligence ou les moyens qu'a l'agent de commettre une action morale et se contente de regarder les conséquences de l'action. Et en fonction des conséquences de l'action, il estimera que c'est bon ou mauvais. Donc l'utilitarisme est une forme spécifique, on va dire, de conséquentialisme. Qui essaye d'établir des règles de ce qu'il est bon ou pas de faire en fonction d'une chose particulière. C'est pour ça que c'est pas simplement un conséquentialisme. Et cette chose particulière, c'est l'utilité. Avec un problème, effectivement, premier pour la philosophie, à savoir définir ce que ça signifie que l'utilité. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, la manière dont historiquement ça a été réglé. C'est-à-dire la première position qui a été mise en place, c'était de dire que c'est une quantité de plaisir. Qu'en gros, si une chose est utile, si elle produit du plaisir, et elle est inutile ou n'est pas utile, si elle produit du déplaisir ou des mauvaises choses. Donc en gros, on va chercher dans l'utilitarisme à maximiser des plaisirs. Il y aura des variantes plus tard. Où, par exemple, on n'entendra plus plaisir, mais on proposera préférence. Mais là, on rentrerait vraiment dans les détails, et ce serait des visions, on va dire, contemporaines de l'utilitarisme, qui remplace plaisir par préférence et qui pose par ailleurs d'autres problèmes, mais voilà, là on reste dans le cadre d'une présentation. Et vous sachiez qu'historiquement ça s'est posé comme ça en tout cas, donc l'idée que ce soit le plaisir qui détermine ce qui est utile. Alors, cette utilité, elle est posée par le plaisir, donc elle est très problématique, parce que déjà on peut se demander, mais ce plaisir, qui est-ce qui concerne? Est-ce qu'il me concerne moi? Est-ce qu'il concerne mon voisin? Et je voudrais donner un exemple. C'est par exemple dans le Chuang-Tzu, vous avez l'histoire d'un arbre qui vit en haut d'une montagne. Donc Chuang-Tzu, c'est un philosophe chinois taoïste, troisième siècle avant Jésus-Christ, pour garder notre calendrier un peu spécial. Et en gros, ce qu'il raconte dans une de ses histoires, c'est qu'il y a un arbre sur une montagne, parmi d'autres, avec une front, il est tout tordu, il a une frondaison toute tordue. Et il y a des bûcherons qui viennent, ils ont besoin de bois qu'ils veulent découper pour faire des planches. Donc les utilités du bûcheron, c'est de prendre du bois qu'il y a dans la forêt et d'en faire des planches. Et du coup, quand ils viennent, ils voient donc cette forêt comme plein de choses qui peuvent être utiles, mais il y a cet arbre qui est tordu. Et pour eux, cet arbre tordu, ben il n'a pas trop d'utilité, parce que c'est pas évident de faire une planche droite avec un bois si tordu. Et au final, cette absence d'utilité de l'arbre pour les bûcherons, eh ben, pour l'arbre lui-même, c'est une utilité, dans la mesure où elle va permettre à cet arbre qui est tout tordu de vivre plus longtemps. Autrement dit, c'est parce que même l'inutilité, qui peut être apparente pour certaines personnes, ça peut être une utilité pour d'autres personnes, dans la mesure où il y a des disputes ou des désaccords sur ce qu'on peut entendre par le plaisir ou la manière dont on l'obtient. Donc ça va être un vrai problème qui va exister, quelles que soient les formes d'utilitarisme. Mais en gros, il faut avoir cette idée-là en tête, c'est l'utilitarisme va calculer les plaisirs, et ce calcul, il va essayer d'en faire une somme. Donc il va pas prendre les individus de manière séparée. On prend souvent l'utilitarisme comme une vision individualiste ou égoïste de la vie, et en fait, théoriquement, si on l'applique tel qu'il était proposé, c'est pas du tout ça. En fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que l'individu compte pour zéro ou très peu dans l'utilitarisme, ou il compte pour un, alors que 10 individus vont compter pour 10, en gros, quoi, pour faire le résumé. Et du coup, la somme, quand on calcule l'utilité, c'est pas l'utilité pour un individu, mais c'est l'utilité pour un groupe d'individus, pour un ensemble d'individus. Et du coup, ce plaisir lui-même, c'est pas le plaisir d'un individu ou qu'il pourra avoir, mais ce serait un plaisir qui devrait être socialement défini. Autrement dit, en fait, l'utilitarisme, contrairement à ses prétentions, parce que souvent on le présente comme étant une forme de quelque chose de matérialiste, c'est très utilisé en économie. En fait, c'est un idéalisme complet qui idéalise une vision de l'utilité et du plaisir, et qui essaye de l'appliquer à un ensemble abstrait de personnes qui vont être considérées comme une somme, indépendamment de leur valeur qu'on pourrait leur reconnaître, hein, etc. Et donc on essaye de faire ce calcul. Donc c'est très employé en économie à cause de la facilité du raisonnement que permet l'utilitarisme. Et il y a des débats, entre autres, du coup, sur est-ce qu'on peut faire des distinctions entre les types de plaisir. Alors on a souvent comparé Bentham, Mill, etc. à des personnes qui ont une vision un peu du porc, en fait, enfin, c'est-à-dire sous-entendu que pour eux, tous les plaisirs se valent. Autrement dit, le plaisir que l'on peut avoir à la lecture d'un livre, par exemple, et le plaisir qu'on peut avoir à manger une salade, vont être de même valeur. Et ils sont interchangeables. Ça va être la vision que l'on a en général de l'utilitarisme, du plaisir dans l'utilitarisme, et elle était vraie plus avec Bentham qu'avec Mill, parce qu'avec Mill, on commence déjà à voir une distinction avec des plaisirs intellectuels, par exemple, qui peuvent être plus importants que certains plaisirs matériels. Et enfin, il y a tout un ensemble de discussions, donc du coup, sur ce qu'on peut entendre par le plaisir, qui vont un peu freiner ce qui au début paraissait comme un raisonnement intéressant du point de vue de l'applicabilité ou de l'effectivité du raisonnement. C'est-à-dire que du coup, avec l'utilitarisme en général, on a tout un ensemble de raisonnements, pour ainsi dire, un peu facile, quoi. On vous demande de choisir entre tuer une personne pour en sauver 10, par exemple. Est-ce que vous tueriez votre meilleur ami si le fait que vous le tuiez sauverait 10 personnes? Pour l'utilitarisme, ben oui, enfin le choix est évident. Évidemment, puisque dans le cadre de l'utilitarisme, on ne fait pas la distinction entre ce qui est un ami ou ce qui est une personne de la famille ou quoi que ce soit. Pour eux, c'est un individu face à 10 autres individus. Alors il en serait tout autrement si on posait la question, voilà, est-ce que vous devriez sacrifier un membre de votre famille pour sauver 10 personnes que vous ne connaissez pas, et qui plus est, si en plus vous apprenez que ces 10 personnes, je sais pas, étaient déjà en phase terminale de telle maladie. Enfin, voilà, on pourrait imaginer en fait tout un tas de raisonnements moraux qui viendraient un peu contrecarrer la simplification des raisonnements que l'on propose en général pour mettre en avant l'utilitarisme. Alors, une des conséquences de l'utilitarisme, qui est employé aujourd'hui grandement en économie et en général, c'est par exemple que la plupart des sociétés cherchent la croissance, et la croissance est identifiée au bonheur. Donc l'idée que la croissance économique soit ce qu'il faut atteindre, parce qu'elle va participer, c'est le pour le plus grand nombre, quoi, c'est ne pas prendre individuellement les agents en compte, et ça correspond parfaitement à ce que va faire l'utilitarisme. Donc du coup, par exemple, on ne voit pas les inégalités à l'intérieur d'une société. On va dire, oui, ben après tout, tel ou tel pays est en croissance, et du fait qu'il soit en croissance, c'est une chose positive. Alors qu'en fait, si on regarde à l'intérieur de ce pays, on peut voir, par exemple, de grandes disparités d'argent ou de tel autre critère. Mais on va pas prendre en compte ces disparités-là parce que ce qui est mis en avant, c'est la société en général. Du coup, la croissance mise de l'économie. Alors, il y a eu des raffinements de cet utilitarisme, et donc aujourd'hui, vous avez d'autres critères qui sont proposés que celle que la nation. Vous avez des personnes qui essayent de prendre en compte des groupes spécifiques, ou par exemple qui vont à l'échelle de la famille ou des choses de cet ordre-là, qui viennent essayer un peu de compenser les défauts que peut avoir cette approche. De l'intérêt causé par l'intérêt de la somme plutôt que pour les participants. L'autre défaut de l'utilitarisme, ou l'autre difficulté, on va dire, c'est que dans les patients et les agents qui sont pris en compte par l'utilitarisme, il est plus ou moins exigé qu'ils soient quand même très rationnels. Parce que pour prendre en compte la meilleure décision, pour prendre en compte la décision qui créera le plus de plaisir, il faut que le patient, enfin, il faut que l'agent qui est considéré comme agent moral, il faut qu'il soit capable de prendre la meilleure décision, quel que soit le moment, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, parce que s'il prend pas la meilleure décision, s'il n'a pas la connaissance de l'ensemble des possibilités qu'il pourrait faire et qu'il choisit pas parmi l'ensemble de ses possibilités la meilleure, eh bien du coup, il va commettre une action qui n'est pas celle attendue par l'utilitarisme. En fait, un des défauts de l'utilitarisme, c'est son taux d'exigence par rapport à la personne qui commet des actions et qui est quasiment impossible. Donc, c'est un des problèmes que l'on rencontre du point de vue politique. Donc, si on fait par exemple la philosophie morale et les conséquences politiques, souvent on a cette apparition, bon, ça paraît qu'une fois dans le texte, mais c'est très utilisé de manière populaire, de la question de la main invisible, qui est en fait proposée par Adam Smith. Donc il y a cette idée qu'à un moment donné, ben, c'est le marché qui va réguler par lui-même ce qu'il est bon ou mauvais de faire, parce que il va faire ce qu'il y a de mieux. Et en fait, cette possibilité-là, de l'autorégulation du marché, elle n'est possible qu'à condition d'avoir la connaissance de l'ensemble des informations, de l'ensemble des choses qui se passent en même temps pour un même agent. Et autant dire que cette situation en fait est quasiment impossible, c'est-à-dire que en raison des états, des choses que l'on fait à tel ou tel moment, la concentration de notre réflexion sur telle ou telle chose, et la méconnaissance que l'on peut avoir de tout ce qui se passe en même temps au même endroit, il n'est pas possible d'atteindre en fait l'exigence d'un utilitarisme, d'une forme d'utilitarisme qui exigerait de ses agents une rationalité parfaite. Se pose alors du coup la question de l'utilité de l'utilitarisme, dans la mesure où il devient très difficile de voir quand est-ce qu'on peut l'employer. Et ce sont des questions effectivement actuelles qui ont poussé certaines personnes à proposer d'autres formes d'utilitarisme, à le modifier, à en faire un utilitarisme des préférences, où il serait possible de dire des préférences au lieu de prendre en compte de manière de prendre en compte juste le plaisir. Voilà, c'est des questions qu'on peut voir actuellement sur ce raisonnement là. Je vais pas aller plus loin sur cette manière de voir là dans le cadre d'une présentation, et je vais aborder le deuxième courant, qui est le déontologisme. Alors le déontologisme, ça vient donc de déon, qui c'est le devoir en grec, et on l'attribue généralement, sa formalisation en tout cas, à Kant. Donc le déontologisme, il part d'un présupposé, hein. Bon, normalement c'est pas le cas, il se présente comme étant inconditionnel, mais toujours est-il qu'il faut quand même, par exemple, que les jugements moraux que les personnes qui les agents moraux disposent d'une conscience pour avoir un jugement moral, sans quoi on considère qu'ils ne sont pas capables de jugement moral, et c'est ce qui se passe en général dans les tribunaux quand dans une personne on ne reconnaît pas la conscience du mal, par exemple. Ben en général on n'envoie pas forcément en prison, on envoie plutôt on lui propose des formes de traitement. Oui, on essaye de réparer plus ou moins comme on peut les actions qui ont été commises, ce qui n'est malheureusement pas toujours faisable, ce qui pose d'autres problèmes. Donc il faut la présence d'une conscience, et surtout pour Kant, pour qu'un jugement soit acceptable, il faut qu'il puisse être universalisé. Autrement dit, Kant, en fait, en proposant le déontologisme, propose ce que l'on peut voir comme étant la moins morale, si par morale on entend, par exemple, faire attention ou prendre soin de telle ou telle chose. Puisque, pour ainsi dire, pour Kant, c'est pas les choses en elles-mêmes qui vont avoir de l'intérêt, c'est le raisonnement, savoir si ce raisonnement, on peut l'universaliser ou pas. Et à partir du moment où on peut l'universaliser, c'est-à-dire faire un raisonnement qui serait valable non seulement pour soi, formulé de telle manière que tout le monde serait d'accord pour avoir ce même raisonnement, à ce moment-là, il va être considéré comme étant validé moralement. Alors, quel type de raisonnement peuvent rentrer dans ces propositions-là? Ben, c'est par exemple, pour le vulgariser, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Sachant que c'est pas du tout ce qu'a énoncé Kant, hein, mais pour comprendre facilement, ça serait des formes de cet ordre-là. Une formulation qu'a retenu Kant, c'était « Agis toujours d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Donc ça, c'est le raisonnement de base qu'il faut pour élaborer ou proposer une maxime morale. Si une maxime morale qu'on propose ne répond pas à cette proposition-là, que je rappelle, « Agir toujours d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle », donc si une proposition n'y correspond pas, elle n'est pas retenue comme morale. Kant proposait quelques visions concrètes, hein, de ce qui pourrait d'après lui être retenu comme morale selon cette proposition. Il en proposait quatre. D'une part, l'interdiction du suicide. D'autre part, la nécessité de tenir ses promesses, de déployer ses capacités et de porter assistance aux autres. Pour lui, en gros, quand on essaye de voir quel cas concret répondait à cette logique-là, on avait ça, quoi. Donc, une formulation qu'il proposait aussi, c'était agis toujours de manière à ce que tu traites l'humanité en ta personne aussi bien qu'en celle de tout autre, toujours comme une fin, jamais comme un simple moyen. Donc je répète, agis toujours de manière à ce que tu traites l'humanité en ta personne, aussi bien qu'en celle de tout autre, toujours comme une fin, jamais comme simple moyen. Donc de ce point de vue-là, le déontologisme s'oppose radicalement à l'utilitarisme, dans la mesure où dans l'utilitarisme, il fallait que chacun voie dans les autres, en quelque sorte, l'utilité qu'il pouvait tirer. Avec le déontologisme de Kant, c'est pas du tout ça. On ne cherche pas l'utilité des autres, on ne cherche pas à voir les autres comme un moyen pour autre chose. Par exemple, dans le cas que j'avais évoqué tout à l'heure, d'une personne qui faudrait tuer pour en sauver 10 autres, pour le déontologiste, pour le raisonnement déontologique, c'est pas possible, parce que si on a défini le meurtre comme étant mal, eh bien, tuer une personne, ça suffit pour ne pas répondre à un critère déontologique. C'est-à-dire, comme on a dit, tuer c'est mal, qu'on en tue une ou qu'on en tue 10, de toute façon, on part sur la mauvaise perspective du point de vue du déontologique. Donc, de la même manière, on ne fait plus trop attention, dans le déontologisme, on ne fait plus vraiment attention ou pas trop aux conséquences de l'ensemble des actions. On prend la conséquence en quelque sorte directe et on fixe son attention sur les intentions de la personne. C'est-à-dire que si, par exemple, on va considérer qu'une action est bonne ou qu'une chose est bonne à partir du moment où la personne a eu les bonnes intentions pour les réaliser. Alors ça pose là aussi tout un tas de problèmes, effectivement. Comment on juge de ses intentions et comment avoir, alors qu'on a de bonnes intentions, on peut arriver à de mauvaises actions. Comment est-ce qu'on fait pour ces cas-là? L'exemple que l'on donne sans arrêt, qu'il faut savoir qui vient de là, c'est qu'effectivement, par exemple, pour Kant, il faut toujours dire la vérité. Et quand on commence à mentir, quand on commence à mentir, mais pour Kant, ça va faire qu'ensuite, on aura annulé chez les autres personnes la possibilité. Enfin, la réciprocité selon laquelle on doit dire la vérité. Autrement dit, si on commence à leur mentir, il n'y a pas de raison pour que les autres ne nous mentent pas, et il n'y a pas de raison pour que nous, dans le futur, on continue pas à mentir. Et par conséquent, on annule la possibilité même d'une morale ou d'un intérêt moral pour soi. Donc pour Kant, il fallait toujours dire la vérité. Et l'exemple donc que l'on donne à chaque fois de manière un peu caricaturale, hein, mais qui permet de bien faire comprendre le problème, c'est une personne qui hébergerait chez elle pendant la Seconde Guerre mondiale un juif et un soldat allemand qui viendrait lui demander si elle héberge un juif. Et donc selon la morale de Kant, comme il faut toujours dire la vérité, et bien dans ce cas-là il faudrait dire la vérité, parce que si on ne dit pas la vérité, on commencerait à mentir à soi-même, etc. On ne répondrait plus aux critères moraux, et donc il faudrait dire que oui, on l'héberge. Alors évidemment, c'est un peu le caricaturer, puisque c'est pas aussi simple. Enfin, il y a eu d'autres propositions, mais c'est vrai que ça peut faire partie des conséquences du déontologisme que cette position-là. Voilà, c'est donc le déontologisme est quand même aujourd'hui très appliqué, de manière, surtout dans les entreprises ou quand il faut répondre à un règlement, qu'il ne faut pas questionner ce règlement, qu'il faut l'appliquer ou qu'il faut répondre devant la loi par exemple, etc. En général, on est dans un cadre de cet ordre-là en fait, c'est-à-dire qu'on vous pose pas de questions, on vous demande pas si c'est votre avis sur la chose. Il y a un ensemble de devoirs et il faut répondre à ces devoirs, quels qu'en soient les conséquences. Ça posera tout un tas de problèmes. Bon, je les ai un peu évoqués pour l'utilitarisme, alors juste je vais en indiquer aussi pour le déontologisme. Un des problèmes, c'est pareil, d'un coup, l'exigence qu'il est portée sur l'agent de sa manière de son raisonnement, sa manière de mettre en place des raisonnements moraux. Là, il faut plus que la présence d'une conscience pour Kant, il faut carrément la présence d'une capacité à la logique, à une logique qui se voudrait universelle. Et du coup, c'est vrai que ça permet pas forcément à tout le monde d'établir des critères moraux d'action, parce que c'est pas forcément évident d'imaginer une règle que tout le monde pourrait appliquer, donc c'est vrai que de manière universelle. Et puis par ailleurs, ce qu'on peut juger universel pour soi ne l'est pas forcément pour les autres. Et par exemple, la honte, le sentiment de la honte, ne pas provoquer, par exemple, on pourrait se fixer comme règle de ne pas provoquer la honte chez les autres personnes, de la même manière qu'on ne voudrait pas que quelqu'un nous la provoque. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas tous honte de la même chose ou de la même manière. Donc du coup, il y a des choses qui pour nous ne seraient pas honteuses et qu'on se permettrait, tout en ayant l'impression de ne pas déroger à la règle. Et il y a des choses qui pour nous, par contre, nous créeraient beaucoup de honte, mais que d'autres vont appliquer, tout en ayant eux-mêmes l'impression qu'ils ne dérogent pas trop à la règle. Donc à un moment donné, effectivement, dans ce qu'on entend par universel, dans les mots qui sont mis derrière ce qu'on veut chercher à appliquer de manière universelle, ben on va rencontrer ce type de problème-là. Enfin, la dernière position qu'on va aussi présenter rapidement, c'est l'éthique des vertus. Donc l'éthique des vertus, bon, c'est une des plus anciennes, hein, les autres sont un peu plus récentes. On va dire que l'utilitarisme est né plus ou moins en même temps que l'industrie. Bon, pour moi, c'est peut-être pas par hasard. Voilà, on a commencé à avoir des actions sur de grandes distances, sur une grande quantité d'objets, et du coup, on a mis au point un raisonnement moral qui est adapté, qui s'adapte à ce type d'action. Le déontologisme, ça arrivait à une époque où voilà, il fallait peut-être avoir plus une exigence morale assez forte par rapport à des conflits religieux qu'il y avait, des guerres, etc. Et donc l'éthique des vertus, c'est une des plus anciennes qui a été formalisée ou le plus travaillée par Aristote, mais qui en fait correspond globalement à une vision de l'éthique qui est particulière, puisqu'elle ne met pas en avant un point de morale qu'il faudrait respecter, par exemple des devoirs ou encore le plaisir, mais elle laisse un peu plus de liberté à l'agent de définir ce qui pour lui correspond à ce qu'est le bien. Mais par contre, elle pose la question d'une autre manière. En gros, c'est quel est le type de personne que l'on voudrait être ou que l'on voudrait avoir. Qu'est-ce que le bien, c'est construire une bonne personne, quoi, être une bonne personne. Et du coup, on se demande comment faire pour être cette bonne personne. Ce qui fait que l'éthique des vertus pose comme base que sa réalisation, c'est ben, la possibilité d'avoir l'ensemble de ses capacités. Donc on va chercher à s'accomplir, à s'épanouir, à se développer. Ce sont l'ensemble des termes que l'on peut rencontrer dans ces éthiques-là. On va partir du principe que les individus, les agents sont souvent imparfaits et qui vont chercher un peu dans ces perspectives-là. L'éthique des vertus, contrairement aux autres éthiques, ne prétend pas et même refuse en général une vision scientifique ou une vision objective. Parce que l'utilitarisme se présente souvent comme étant scientifique, dans la mesure où on pourrait faire un calcul des plaisirs et des déplaisirs, bon, avec des problèmes que j'ai déjà évoqués, et la vision kantienne, le déontologisme, se présente souvent comme étant objectif. Parce que voilà, il y a des règles, des lois, des devoirs qui sont appliqués, qui sont mises en place, et soit on les respecte, soit on ne les respecte pas, et donc objectivement, on peut juger du fait qu'une personne les respecte ou ne les respecte pas. Avec des problèmes un peu flous que j'ai évoqués aussi à ce moment-là. Eh bien, l'éthique des vertus, elle refuse ces perspectives-là. En fait, elle ne met pas en place une formalisation aussi systémique, on va dire, que les précédentes approches éthiques, bien qu'elle garde un peu de rigueur. Et si elle prend cette position-là, c'est parce qu'elle pense qu'elle fait de front, enfin, elle prend en compte à sa base la contingence et le hasard, la chance, enfin, tout un ensemble de situations en fait qui peuvent être différentes. Elle part du principe donc qu'on ne peut pas élaborer de raisonnement moral qui serait universellement valable et que ça dépend à chaque fois des personnes qui appliquent une action morale. Que selon leur capacité, selon ce qu'ils sont capables de faire, selon la situation, on ne peut pas exiger les mêmes choses. Et du coup, pour faire front à cette variation de situation, de capacité, etc., l'exigence de base de l'éthique des vertus, c'est de se construire des vertus. Et par vertu, il faut entendre capacité, caractère, en fait, se construire un caractère qui est capable d'accomplir au final ce que nous même on désirait comme étant une bonne ou une mauvaise chose. Alors l'éthique des vertus aujourd'hui, elle a connu un nouveau regain. Les autres en ont toujours eu plus ou moins à cause de, enfin, grâce à leur perspective objective, on va dire, ou alors scientifique. Et l'éthique des vertus, elle a commencé à en avoir un avec, à cause de cette prise en compte justement de la variabilité des personnes, de leurs capacités, ce qui n'était pas forcément pris en compte par les autres perspectives. Et elle a connu différentes nouvelles versions, par exemple l'éthique du care, ou encore la théorie des capacités de Martha Nussbaum, enfin tout un ensemble de reformulations, on va dire, qui essayent un peu de s'attarder sur cette approche-là. Ce qui la distingue aussi, c'est le fait que elle va essayer de définir du coup un bien commun autour duquel elle va s'articuler. C'est-à-dire qu'elle va, pour se mettre en... pour fonctionner, il va falloir qu'elle définisse un bien commun, un peu clair, à partir duquel on va pouvoir, enfin un horizon, en fait, qu'on va chercher à atteindre. Mais cet horizon, il est défini par les agents eux-mêmes, il n'est pas prédéfini comme c'est le cas souvent dans l'utilitarisme, donc le plaisir, ou dans le déontologisme, il y a déjà un ensemble de règles qu'il faudra appliquer. Donc c'est aussi quelque chose de particulier, et c'est pour ça qu'on a tendance à mettre en avant cette approche-là comme étant une forme de communautarisme, mais pas de communautarisme au sens de fonder une communauté, mais en fait au sens de mettre en place un bien commun, quelque chose qu'il faut définir. C'est-à-dire que elle correspond vraiment à l'idée selon laquelle dans la question de la métaéthique, j'avais évoqué la manière dont on peut définir le bien. Et pour l'éthique des vertus, il y a vraiment un bien positif qui peut être défini et qu'il va falloir au fur et à mesure définir. Alors la plupart, en fait, une des éthiques des vertus actuelles, ça va être celle de Martha Nussbaum, par exemple, qui consiste à dire que ce qu'il faut prendre en compte, c'est les capacités, enfin, c'est les individus eux-mêmes dans le fait qu'ils vont rechercher à avoir des capacités à faire les choses, et donc le bien qui va être défini comme étant en commun, c'est non pas par exemple le bonheur ou le progrès, etc., mais ça va être la possibilité pour chaque être, pour chaque individu, de réaliser ses capacités, non pas de les réaliser, c'est-à-dire de lui imposer d'avoir toutes ses capacités, etc., mais de lui laisser la possibilité de pouvoir les réaliser s'il le veut. Et cette manière-là de voir l'éthique, du coup, peut être peut s'appliquer aux humains, comme elle s'applique en général, mais Martha Nussbaum, par exemple, a essayé de montrer qu'on pouvait aussi l'appliquer, par exemple, aux animaux, en disant, ben voilà, par exemple, si on se pose la question des animaux qui sont dans des zoos ou dans des conditions particulières, on essaye de voir, est-ce qu'ils ont la possibilité, dans ces lieux-là, d'accomplir leur pleine capacité. Et s'ils ne l'ont pas, eh ben il faut leur donner les moyens de compenser les capacités qu'ils ne peuvent pas accomplir par ailleurs parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Par exemple, si un animal qui a besoin de chasser ou de courir a besoin de courir, mais que dans le zoo ou dans le zoo par exemple il peut pas chasser parce qu'on va lui donner sa nourriture déjà prête, eh ben on va lui mettre en place des activités de compensation, pour ainsi dire, pour qu'il puisse réaliser sa capacité spécifique en tant qu'espèce, en tant qu'individu d'une espèce, à pouvoir par exemple se déplacer, à chasser, même s'il n'accomplit pas la tâche finale de la chasse, qui consiste à tuer un autre être vivant. Il va essayer de compenser un ensemble, une partie de ces activités là. Donc c'est une approche qui essaie de prendre en compte, voilà, la diversité des individus. Elle va essayer de l'appliquer aussi aux personnes qui sont mise en situation de handicap, ou dans des pays comme Martha Nussbaum est allée travailler en Inde, où les femmes par exemple sont assez déconsidérées dans ces pays-là, qu'il y a un nombre de femmes manquantes par rapport à d'autres pays. Si on regarde par exemple les statistiques de nombre d'hommes et de femmes qui naissent, ben en Inde il y a moins de femmes que d'hommes qui naissent par rapport à d'autres pays, parce que elles seront déconsidérées moralement plus tardivement dans la société, et du coup il y a un avortement qui est plus fait sur les femmes que sur les hommes, parce que elles sont considérées comme un poids dans la société dans certaines parties de l'Inde. Donc du coup elle a fait un travail spécifique, Martha Nussbaum, sur les femmes en Inde, et elle a essayé de mettre au point un ensemble de critères, un ensemble d'éléments de droits ou de points fondamentaux qu'il faudrait respecter pour pour respecter les capacités minimum que devraient avoir les agents. Bon, alors cette perspective-là qui est très intéressante, et c'est en général une considérée comme une des plus intéressantes actuellement, elle a aussi des problèmes. Bon, d'une part, ben, son refus de la systématisation, de pas pouvoir mettre au point un système. Donc pour les personnes qu'on appelle la classe dirigeante, ou pour les personnes qui prennent les décisions politiques ou économiques, c'est pas un système très facile à appliquer, puisque s'il faut prendre chaque individu en compte de manière séparée, on va voir que on peut pas prendre un critère général, par exemple, que serait la croissance, puisque si il faut prendre en compte chaque individu, on peut pas appliquer un raisonnement général pour les individus en particulier. Donc c'est pas pratique de ce point de vue-là, et en plus c'est pas tout le temps facile de justifier. Il n'y a pas un raisonnement particulier ou un raisonnement universel qui serait, comme on l'a par exemple dans le déontologisme ou dans l'utilitarisme, qui permettrait de justifier une action morale de manière évidente en disant j'ai fait ça pour cette raison-là. Et du coup, du point de vue de la justification, c'est pas forcément évident d'employer l'approche de l'éthique des vertus. Je vais m'arrêter là, on va dire, pour les présentations des différents courants, sans être rentré plus dans le détail. Je pourrai éventuellement plus tard, si des personnes sont intéressées. Donc ces trois approches sont, là j'ai développé simplement leur base. Elles ont toutes subi des évolutions, des manières plus fines et plus affinées de proposer des raisonnements moraux, certains plus ou moins aboutis. Et aujourd'hui, en général, on essaye de faire un mixte entre différentes approches, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on a développé un utilitarisme de la règle qui se distingue de l'utilitarisme en général, qui essaye d'appliquer des règles autres que le plaisir dans le cadre de l'utilitarisme. De la même manière, le déontologisme est perçu comme étant quand même intéressant, dans la mesure où, une fois qu'on a établi clairement des règles ou des devoirs, c'est facile de s'y faire référencer pour pouvoir revendiquer quelque chose. Et dans l'éthique des vertus, il y a l'approche par les capacités qui commence quand même à pas mal fonctionner, qui commence à avoir des formulations un peu intéressantes qui peuvent être utilisées. Et donc en général, on essaye de faire un peu un mélange des trois. Un des mélanges qui peut être intéressant de retenir, ce serait par exemple d'avoir un cadre général qui serait celui de l'éthique des vertus, dans la mesure où il prend en compte la diversité des patients et des agents dans leur de manière un peu plus fine. Qu'au-delà de cette éthique des vertus, le bien quand même correspond à des règles qui étaient définies, donc par exemple en se référant au déontologisme, en établissant des règles qui pourraient être plus ou moins partagées. Et au-delà de ça, après on pourrait appliquer, une fois tous ces critères là passés, on pourra appliquer les questions des conséquences au-delà de l'utilitarisme, des conséquences sur certaines actions spécifiques qui seraient prévisibles, sachant qu'elles ne le sont pas forcément toutes, et dans des cas vraiment très particuliers où on peut effectivement envisager les conséquences. Donc ça peut être des mélanges de cet ordre-là qu'on peut trouver aujourd'hui. J'espère que cette présentation a pu aider certaines personnes, qu'elle a permis d'éclaircir certains points. Et n'hésitez pas à voir certaines questions, à vous référencer vous-même sur ces domaines-là. Moi, il y a deux livres que je recommande. C'est d'une part, et en premier lieu, le Petit cours d'éthique et politique de Martin Provencher, aux éditions Chenelière Éducation, si je me trompe pas. Ça vient du Québec. C'est écrit en français, c'est très accessible et ça présente vraiment les trois courants dans les détails, avec les difficultés. Ça présente des résumés faciles d'accès. Il est vraiment très bien fait. J'ai pas trouvé plus clair et plus simple pour ceux que ça intéresse. Donc, Petit cours d'éthique et politique de Martin Provencher. Et sinon, aux éditions Que sais-je, il y a le livre La philosophie morale de Monique Kandos-Perber et Ruwen Ogyen, je suis pas sûr de bien le prononcer, qui est aussi pas mal. Peut-être un peu bon, un peu trop synthétique ou disons parfois qui passe un peu rapidement sur certains points et que si on n'a pas déjà une idée un peu générale ou précise de ces points, ça, c'est pas forcément, il est peut-être un peu moins facile d'accès, mais disons que ce sont deux livres assez généraux sur ces questions-là qui peuvent permettre à certains de creuser ces domaines-là. Voilà, merci.